Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission et soyez les bienvenus dans La Tectonique du Savoir saison 1. Une rencontre, une lecture, un nouveau savoir peut avoir un effet incroyable dans une vie. Cet effet peut même se transformer en mouvement tectonique, tout détruire pour tout reconstruire. Un peu violent ? Certes, je vous l'accorde. C'est dans cet esprit que j'ai conçu cette nouvelle émission dédiée au savoir scientifique, mais pas uniquement. Apprendre et comprendre en compagnie d'invités professionnels, sympathiques et surtout passionnés, voilà quelques ingrédients de la tectonique du savoir. La nouvelle émission que je vous propose de découvrir aujourd'hui sur l'excellent web radio Esprit Occitanie. Le thème de cette première émission est l'intelligence artificielle. Sujet vaste, me direz-vous, sur lequel de nombreux clichés circulent. Pour cette première, j'ai le plaisir d'être accompagné par un jeune homme professionnel, passionné et extrêmement sympathique. Je vous présente Maxime Polak.
Bonjour, bonjour Eric, merci pour l'invitation, enchanté d'être là.
Je suis ravi. Bonjour Maxime. Alors, je crois me souvenir que vous êtes un adepte du pitch. Qui êtes-vous, cher Maxime?
Alors, bonjour, donc Maxime Pavlak, avec un W comme dans le wagon. Tout le monde fait l'erreur, hein, faut pas s'en vouloir. Aucun souci là-dessus. Rapidement me présenter, alors je vais essayer de faire ça en moins de 5 minutes, hein, parce qu'on a sûrement d'autres éléments à aborder. Je suis quelqu'un de curieux, avec mille idées, envie de faire plein de choses à la fois, mais qui suis, comme tout le monde, extrêmement limité par quelque chose qui est vieux comme le monde, qui est les 24 heures d'une seule journée. Et en fait, vous pouvez me retrouver le week-end à la montagne, la journée d'un un écran d'ordinateur et le soir dans une école de danse. C'est un peu ce qui me définit ces dernières années. Et puis ensuite, on va se rapprocher un peu du thème du jour, mon parcours professionnel, hein, pour parler d'intelligence artificielle. Je viens à la base des télécommunications. Mon stage de fin d'études m'a emmené dans une start-up aux États-Unis où là, j'ai eu une révélation. Ça m'a emmené ensuite dans le monde du logiciel où j'ai voulu créer ma propre société et pour créer sa société, il faut aller développer un produit pour le vendre. Et j'ai trouvé le monde du développement logiciel incroyable. Et puis en fait, dans le monde du logiciel et de l'entrepreneuriat, j'ai découvert le monde de la donnée et en parallèle émergé le monde de la data science, de la donnée, du big data, de l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé ça encore plus excitant, donc je me suis engouffré dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je fais, j'accompagne mes clients sur les sujets de la donnée. Et puis bien évidemment, je fais des formations puisque j'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien transmettre, j'aime bien être challengé, être mis en question, etc., etc. Donc en quelques mots, voilà, sérendipité, curiosité, passion, technologie, voilà, pour faire rapide en moins de 3 minutes. Parfait.
Moins de 2 minutes, c'était parfait. Alors, excellente, vous avez fini par un mot qui est rare et qui peut être intéressant de développer un tout petit peu, sérendipité.
La sérendipité. Pourquoi
Ou alors plutôt, c'est quoi?
Alors c'est quoi? Alors, je me trompe toujours dans la définition. Moi, je le définis plus comme c'est pas en cherchant qu'on trouve les choses, c'est en finalement en étant curieux qu'on va associer un peu par hasard. En étant sous la douche, par exemple, ou en marchant dans la rue, on va se dire, tiens, c'est marrant, hier, j'ai vu ce concept-là, et avant-hier, j'ai vu un autre concept. Et en fait, si je les associe, bah, ça fait quelque chose d'incroyable. C'est comme ça que je le définis. Donc, il y a sûrement une définition littéraire beaucoup plus appropriée dans le Larousse.
Sûrement, mais c'est la définition c'est sa propre définition qui est la plus intéressante, à mon avis.
C'est ça. Et en fait, ça revient dans mes études, où j'ai fait donc, une école de télécommunication. Et il y a un des chercheurs de l'école et son équipe avait été connu justement pour avoir développé une technologie qu'on trouve dans la 4G entre autres. Et il était intervenu à la rentrée pour inspirer les étudiants. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il avait appliqué des techniques de la physique aux télécommunications. Et c'est ça qui avait fait qu'on avait pu développer, qu'il avait pu développer ses travaux et avancer et faire la découverte qu'il a faite. Donc c'était avoir une approche non intuitive par les experts du secteur. Et c'est ce que j'essaie de cultiver aussi, d'être curieux sur plein de choses pour de temps en temps avoir des idées et prendre à contre-courant des experts d'un certain secteur.
Merci pour cette définition et pour cette explication qui, pour les deux, sont très, très intéressants et qui peuvent peut-être permettre à certains auditeurs d'avoir une idée, deux idées, trois idées, et puis avec la première, la troisième et la sixième, essayer de faire une septième ou une huitième. Ça peut toujours être intéressant. C'est comme ça que certaines choses ont été découvertes, je crois. Enfin non, je crois, j'en suis même sûr, mais je n'ai pas d'exemple sous la main.
Le micro-ondes.
Voilà, le micro-ondes, je pense à la tarte tatin aussi.
Le vaccin.
Des trucs, voilà, les vaccins, un certain nombre de... Et certainement beaucoup d'autres choses demain qui jalonneront notre histoire future. Alors, revenons à notre sujet, parce que je crois qu'on est capable de partir sur 700, 800, 500, enfin énormément de sujets, mais recentrons-nous sur l'intelligence artificielle. Alors, première question, d'où vient l'intelligence artificielle? Son histoire? Ses fondements ou son fondement?
Alors, d'où ça vient? Alors, faire une définition simple, c'est pas forcément évident. Donc, je vais commencer rapidement par essayer de définir, mais ça va pas parler au. Enfin, ça parle pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'on parlera après d'histoire. Une définition qu'on trouve, c'est un ensemble de systèmes capables de reproduire l'intelligence humaine. Une fois qu'on a cette définition extrêmement simple,
oui,
il faut définir l'intelligence humaine.
Tout à fait.
Et il n'y a pas une forme d'intelligence. Et c'est là où en fait c'est extrêmement compliqué. Donc maintenant on va raconter un peu l'histoire pour comprendre, pour essayer de mieux comprendre cette définition. Ça intervient à fin de la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing, qui a beaucoup travaillé pour décoder la machine Enigma, donc des nazis, a fait pas le bon. Et en sortie donc des années 50, beaucoup de financement, notamment de la part des États-Unis, dans tout ce qui est électronique, avec les labos Bell, par exemple, les télécommunications, etc. Et ça intervient en 1956, enfin en tout cas l'apparition du terme intelligence artificielle apparaît pour la première fois à l'été 1956 avec un chercheur, McCarthy, qui a envie d'aller plus loin et qui a l'intuition que les machines peuvent apprendre de la même manière que nous, êtres humains, nous apprenons. Donc, il réunit des collègues émérites et ils font un camp d'été d'une dizaine de semaines pour échanger sur ces sujets, sur comment comprendre comment l'homme apprend pour essayer de le retranscrire dans une machine mécanique. Et ça débute là, et puis ensuite, l'histoire démarre. Donc, si tu ne m'arrêtes pas, moi, je continue. Si vous ne m'arrêtez pas, pardon. Et là, on est en 1956, donc je...
Donc, c'est certainement pas le même.
Je ne pense pas que ce soit le même. Je pense qu'il y a beaucoup de McCarthy dans l'histoire, mais ça ne devait pas être le même. Et donc, 1956, point de départ, en tout cas dans un document, et puis ensuite beaucoup de recherches qui vont permettre d'avancer dans la compréhension du cerveau humain aussi en parallèle, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, on entend beaucoup le terme de neurone, qui peut porter à confusion dans certains cas. Et en fait, on va alterner des phases avec beaucoup d'investissement et beaucoup d'engouement et des phases qu'on appelle hivernales, où en fait, il y aura des désillusions, où les investisseurs, les financeurs vont se rendre compte qu'il y avait beaucoup de promesses et ils vont arrêter les financements. Donc, c'est ce qui se passe au début des années 70. Et puis ensuite, il y a un regain d'intérêt. On se dit, ah bah finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, ils remettent beaucoup d'énergie jusque dans les années 80-90, où là, bah, en fait, pareil, ils sont un peu déçus des résultats. Et ça repart début des années 90 avec pas mal de travaux fondateurs, dont notamment Yann LeCun, qu'on abordera peut-être, hein, qui fait sa thèse à ce moment-là, début des années 90. Et depuis, en fait, ça ne fait qu'augmenter et c'est lié à d'autres éléments, d'autres évolutions, hein, et notamment le big data, notamment la puissance de calcul qui est arrivée. Et puis ensuite, depuis 10 ans, on entend le mot deep learning, réseau de neurones à tout va. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je suis assez mal à l'aise avec le terme intelligence artificielle, notamment parce que la définition est floue pour moi. Et je privilégie, quand on parle aujourd'hui de la révolution de l'intelligence artificielle, je privilégie plus le mot de machine learning en anglais, apprentissage automatisé, parce que c'est vraiment ça, en fait, le boom qu'il y a eu depuis 10 ans. C'est comment le machine learning a pu être déployé à grande échelle et être utilisé. Et le machine learning, du coup, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Mais comme je ne maîtrise pas l'intelligence artificielle, j'évite de parler de choses que je ne maîtrise pas trop.
D'accord, bon, quand même, vous avez une certaine maîtrise tout de même. On l'entend, même si effectivement la définition peut être un petit peu compliquée de se dire on essaie de transférer vers une machine quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement pour nous. Ça peut être un petit peu... Ça fait rêver, ça donne envie aussi, ça... Ça pousse les gens à vouloir investir, à vouloir toujours essayer de peut-être trouver la machine qui nous sauvera de tout ce qui peut nous arriver demain, malgré le fait que l'homme n'y arrive pas. Mais peut-être que la machine pourrait y arriver. Sauf que si on part du principe que la machine va commencer avec la même intelligence et les mêmes informations que l'homme, j'ai beaucoup de mal à imaginer que la machine soit beaucoup plus intelligente. Mais c'est vrai qu'intelligence artificielle, c'est un fourre-tout. Mm. Et comme vous le dites, machine learning,
deep learning,
big data, enfin toutes ces informations qui peuvent être agglomérées sont nombreuses, sont sujettes à beaucoup de tabous. Mais tout à l'heure, vous parliez...
Et de fantasmes, oui.
De fantasmes. Vous parliez d'un thésard, dont j'ai complètement oublié le nom, mais vous allez me le rappeler, qui aurait été un petit peu à la base de la refondation des nouvelles recherches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Yann Lequin. Alors, c'est un des chercheurs, puisqu'ils ont été nombreux. On en parle un petit peu en France parce qu'il est français. Donc, il y a ce patriotisme scientifique qui fait foi. Et puis aujourd'hui, donc, il dirige depuis un certain nombre d'années le département intelligence artificielle de Facebook. Donc, Facebook, une société qui développe énormément de choses, même si on ne s'en rend pas compte, mais qui développe énormément de choses dans l'étude du contenu textuel, les photos, la compression des photos, pour faire des agents conversationnels, des chatbots. Enfin, il publie très régulièrement des travaux de recherche très intéressants. Et en fait, lui, il a l'idée en fait, d'appliquer des concepts qui ont été découverts bien avant dans des nouvelles architectures d'intelligence artificielle. Je vais essayer de ne pas rentrer trop profondément dans les détails. Mais en fait, il applique ce qu'on appelle de la rétropropagation à une architecture, et en fait il se rend compte que les résultats sont extrêmement prometteurs. Et donc début des années 90, il crée un système qui est capable à partir de photos, de reconnaître les chiffres sur cette photo. Donc on est début des années 90, la majorité des gens ne savent pas encore ce qu'est un ordinateur personnel, et il arrive à créer ça, et ça va forcément ensuite intéresser la poste, les services postaux et les banques pour reconnaître les chèques. Et donc c'est là où on va avoir aussi un regain d'intérêt pour aller un peu plus loin. Et on est en 1989 à l'époque.
Effectivement, pas grand monde a un ordinateur. C'est l'époque peut-être, 89, des premiers Thomson français, à l'époque où il y avait encore un constructeur d'ordinateurs en France. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'informations qui... Alors, je n'ai pas noté
rétropropagation.
Rétropropagation, très intéressant. Le fait de reconnaître un chiffre, de reconnaître autre chose sur une image, est-ce que c'est de l'intelligence ou est-ce que c'est le fait que... Parce que comment peut-il faire pour reconnaître? Est-ce que avant de pouvoir reconnaître un chiffre, un 1, un 2, un 3, on lui montre 1501 sous différentes polices d'écriture pour qu'à un moment donné, il ait dans sa mémoire le fait de se dire, tiens, quand ça passe devant mon faisceau, c'est un 1, parce que je l'ai déjà vu? Ou alors, est-ce qu'il est capable, en ayant appris que 10, 12, 15, 20 peut-être, de se dire, ça a la forme à peu près de ce que je crois connaître, et donc ça devrait être un 1. Quelle est la logique?
Alors, c'est la partie qui est extrêmement intéressante. Justement, je me rappelle, pendant mes études, donc on n'étudiait pas encore cette partie-là, et on faisait de la vision par ordinateur, je dirais, de manière traditionnelle. Et c'était on identifiait les formes, donc c'est-à-dire qu'on a des outils, donc des fenêtres, des filtres qu'on appliquait à des images, et en fait on pouvait voir s'il y avait des lignes horizontales, verticales, et ensuite en combinant tout ça, on essayait de construire un système pour détecter ce qu'il y avait dessus, si c'était un paysage ou un bateau ou autre. Et là où le monde de l'apprentissage profond, donc le deep learning et notamment les travaux de Yann Lequin sont assez forts, c'est qu'on ne va pas lui dire quoi apprendre. On ne va pas lui dire, il faut que tu regardes les lignes horizontales, il faut que tu regardes les lignes verticales. Comme vous l'avez dit, on va lui montrer énormément d'exemples et on va lui dire, ça c'était le chiffre 1. Et donc c'est lui, et c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage, c'est le système qui va apprendre à différencier un 1 d'un 2. Mais on ne va pas lui dire explicitement. Et c'est en fait à ce niveau-là, ça ressemble d'une certaine manière, je prends beaucoup de pincettes puisque ça fait un peu débat dans la communauté, à la même manière qu'un bébé ou comme que nous avons appris en fait à différencier un camion d'une voiture. On n'a pas conceptualisé, verbalisé le fait qu'un camion, c'était à partir de 2,50 m et que ça avait plus de roues, qu'il y avait une partie qui tractait, une remorque. Pour différencier un chien d'un loup, comment on différencie un chien d'un loup à partir de photos? Est-ce que vous sauriez le définir?
Alors, il y a quelque temps, j'ai entendu une chronique qui expliquait que pour un être humain, il suffisait de lui montrer, je crois que c'était pour un chat, 3 photos de chat, et dans sa mémoire, il savait reconnaître ensuite un chat. Alors que pour un ordinateur, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure pour le 1, d'un nombre colossal de formes différentes de 1, pour qu'il puisse l'avoir en mémoire, pour pouvoir le reconnaître. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Parce que là, on n'est plus vraiment... Enfin, après, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, on n'est plus vraiment dans l'intelligence, on est plutôt dans le fait d'avoir une capacité de mémoire importante qui permet de pouvoir trouver, et de vitesse de processeur, qui permet d'aller chercher très rapidement l'information dans l'ordinateur. Et est-ce qu'un jour, l'ordinateur pourra, avec 3 photos de 1 ou 3 photos de chat, reconnaître un chat?
Alors, il y a beaucoup de travaux dans ce sujet-là. D'accord. Parce que, il y avait, pour reprendre le début de votre question, effectivement, l'avantage de l'être humain, enfin, la puissance de l'être humain, c'est qu'il lui faut peu d'exemples pour apprendre. Et demain, je vous montre un nouvel animal qui a une forme particulière, vous allez réussir à le distinguer. Là où un ordinateur ou un système d'intelligence artificielle ne va pas réussir à le reconnaître. C'est là où nous, on reste encore très fort là-dessus. Parce que l'ordinateur a besoin... Enfin, le système a besoin d'avoir beaucoup d'exemples pour conceptualiser plein de choses que nous, finalement, on conceptualise depuis qu'on est né. Et l'ordinateur, il part de zéro, donc il faut, entre guillemets, simuler cette intelligence. Et donc ensuite, le second point, c'était par rapport à l'intelligence et la mémoire. C'est là toute la problématique de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence, c'est juste une capacité à faire des calculs? Donc, on va dire d'un point de vue uniquement calcul mathématique. Est-ce que l'intelligence, c'est la capacité à être sensible aux autres, donc l'intelligence sociale, émotionnelle? Est-ce que c'est la capacité à retenir des poèmes et des belles citations? Est-ce que c'est la capacité à les replacer dans les contextes, à les comprendre? Enfin, c'est pour ça que le mot intelligence est très compliqué à définir. Et du coup, quand on veut le transmettre à la machine, aujourd'hui, on parle en fait d'un courant d'intelligence artificielle connexionniste. Donc c'est pour faire des connexions entre des choses. Et il y a un autre courant, le courant symboliste, où là, c'est plus... Comment en plus faire en sorte que la machine apprenne par elle-même sans qu'on l'ait...
Sans qu'on lui donne l'information en amont.
Oui, et puis qu'elle puisse continuer à apprendre sur des sujets pour lesquels elle n'a pas été prévue. Puisque aujourd'hui, les systèmes de machine learning qui sont utilisés, ça reste des outils qui ont été entraînés dans des cadres précis. Donc un système, si on l'entraîne à différencier des chats des chiens, il va devenir très bon là-dessus, même meilleur que l'homme à un certain point. Mais si on lui montre demain une pomme, lui, il va dire, à 40%, je pense que c'est un chat, et à 60%, c'est un chien. Ce qui, pour nous, va paraître une aberration. Mais parce que, finalement, c'est hors de son périmètre.
D'accord. Alors, ce que vous disiez juste avant, c'est que l'ordinateur qui peut commencer à réfléchir par lui-même, là, on est dans la science-fiction. C'est-à-dire que, potentiellement, la machine, c'est ce qu'on voit dans certains films, c'est que la machine prend le pouvoir... En ayant réfléchi, mais pour ça, je pense que sur l'ensemble des intelligences que l'on a, toutes ne sont pas développées dans l'ordinateur, mais il va falloir qu'il ait quand même une conscience. Enfin, il y a des choses qui,
il y a d'autres concepts,
qui,
la conscience,
voilà, qui sont un petit niveau supérieur de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent déjà dessus.
Il y a effectivement beaucoup de chercheurs là-dessus, puisque ça pourrait révolutionner énormément de choses. Enfin, on ouvrirait le spectre des possibles, mais pour l'instant, on n'y est pas. On est très loin. Pour reprendre Yann Lequin, parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes ces dernières années. C'est très, très buzzword, le mot intelligence artificielle. Hein, on entend beaucoup de sociétés qui lèvent de l'argent juste parce que, entre guillemets, évidemment, ils font juste de l'intelligence artificielle. De temps en temps, c'est simplement un programme informatique comme on en fait depuis 30 ans. Et donc, Yann Lequin, il y a 2 ans, il me semble, il disait qu'aujourd'hui, en termes d'intelligence, on arrivait à reproduire l'intelligence d'un rat dans une machine.
Ce qui est pas mal, parce que le rat est quand même pas le plus idiot des animaux.
C'est vrai qu'il est pas le plus idiot, mais je pense que ce qu'il voulait illustrer, c'était que finalement, on est bien loin de la machine qui va pouvoir évoluer par elle-même et qui va pouvoir avoir conscience d'elle-même. Je sais pas s'il y a un rat se reconnaît dans le miroir. S'il a conscience.
C'est une excellente question, je ne sais pas.
Il me semble qu'il y a le dauphin et d'autres animaux, mais il n'y en a pas forcément énormément, qui ont cette conscience d'eux-mêmes. Donc voilà, on en est vraiment au balbutiement... de ce domaine-là, de la même manière quand on a inventé la machine à vapeur, on n'avait pas du tout inventé toute la science et toute la thermodynamique qu'il y avait autour. Ben là, on est pareil, on a créé des outils, ils fonctionnent, on comprend un petit peu comment ils fonctionnent, mais ce n'est pas encore bien théorisé dans le sens où il y a du flou à tous les niveaux.
D'accord, donc un second tour d'une élection présidentielle potentielle avec deux ordinateurs, ce n'est pas pour demain.
Non.
D'accord. Donc je vous propose, on va faire une première pause musicale, vous en aurez une deuxième un petit peu plus tard. Et donc là, je vais laisser Maxime nous présenter son choix.
Donc le choix musical, alors j'ai choisi Medine qui est un artiste que j'ai découvert il y a quelques années, alors je pourrais en parler aussi pendant des
heures. Ah, vous avez le temps. Hein.
Un artiste très controversé début des années 2000, puisqu'il a sorti un album suite aux attentats du 11 septembre en 2001 qui s'appelle Jihad, qui a fait polémique pour des mauvaises raisons. Et je l'ai découvert, enfin, je me suis vraiment penché sur cet artiste-là depuis 3-4 ans, donc artiste qui vient du Havre, qui continue sa carrière, donc c'est quand même remarquable pour un artiste dans la musique de faire carrière pendant plus de 20 ans. Et son dernier album qui est sorti en novembre dernier, avec de très belles chansons, très variées, des mélodies très différentes. Ce que j'admire dans cet artiste, c'est sa capacité à raconter des histoires sur des domaines très différents, sa capacité à pouvoir chanter, faire des mélodies, à rapper, il est vraiment très fort. Je peux aussi mentionner le fait que sur son compte Instagram, il met en scène sa vie avec sa femme et ses enfants, et c'est extrêmement drôle et rigolo. Donc si vous avez un compte Instagram, je vous invite à le suivre, parce qu'on se pose toujours la question dans quelle mesure ce qu'il partage c'est vrai ou pas. Et il avait mis en scène pendant le confinement l'anniversaire de son fils en simulant un vol d'avion vers New York ou Los Angeles parce que son fils voulait aller là-bas. Enfin, il est extrêmement drôle, il a un sens du spectacle incroyable. Et dans son dernier album, il y a une chanson, Enfant du Destin, qui raconte la vie d'une jeune fille ouïghour dans la République populaire de Chine actuelle.
On écoute Medine.
À l'ouest au pays de l'Empire Céleste, dans le ciel un drapeau rouge se lève. On parle le turc et se passe le selem. En Chine populaire au 21e siècle, dans la vieille ville y'a le bruit qui court, qu'on déporte tout ce qui ressemble aux Ouïghours. Sarah à 12 ans joue dans la cour avec un drone déguisé en hibou. Ils ont mis ma maison sous scellé, hérissé les murs barbelés, cloué une plaque non civilisée et m'ont laissé les yeux embués. Une semaine avant on le savait, un SUV vert nous suivait. Ils ont laissé mon père pour décéder, et ma mère ils l'ont stérilisé. 1 million de Ouïghours mis à huis clos pour des images religieuses dans leur Wico. T'es suspecté si tu te mets à parler turc. Barbe et foulard sont interdits dans les bus. Un haut-parleur diffuse une voix métallique. Dans les rues de la ville on entend Xi Jinping qui nous exhorte à rejoindre le parti et lutter activement contre le terrorisme. La vérité c'est qu'on est assis sur des ressources pétrolières, enfermés dans les camps où on est de la main d'œuvre sans salaire. On travaille pour les multinationales, marchandises pour le marché illégal. Il paraîtrait même que nos organes sont vendus aux malades des pays arabes. Alors j'ai envoyé mon appel à l'aide dans une vidéo tuto. Adolescente et lanceuse d'alerte, j'ai pas d'autre choix que de le faire sur TikTok. Tout ça c'était sans compter la cybersurveillance au pays de Mao. Et 2 heures après que je poste, la police était déjà derrière ma porte. Coup de matraque à pointe dans le cou, ces gourdins qu'on appelle aussi dents de loup. L'un d'entre eux me demande de me mettre à poil et m'asperge le corps de son gaz au poivre. Direction les camps d'internement, où 40 détenus t'attendent dans ta chambre. Les yeux bandés au fond d'un wagon, direction les camps de rééducation. Scanner des iris, assise sur la chaise du tigre, seringue dans la cuisse. On assiste à un génocide et le traitement rend docile et supprime les règles des vies. Ils nous ont dit que c'est ici qu'on passera la fête de la Eid. Dans une pièce, ils me rasent la tête et vendront mes cheveux à l'export. M'obligent à renier Dieu et son prophète et me forceront même à manger du porc. Ils iront même jusqu'à tuer nos morts en rasant les cimetières de nos ancêtres, en y construisant des parcs pour les mômes et pour être bien sûr qu'on oublie les nôtres. sur mon honneur, sans fut trop quand ces maths ont voulu gagner plus de terrain. En m'enfonçant un stérile et ce contre mon gré, intra-utérin. La tâche vais pas leur faciliter, ils prendront jamais ma fertilité. Je profite d'un moment d'inattention et frappe le chef de leur unité. Joue dans le plateau en inox, frappe la tête du gardien avant qu'il riposte. Sors dans le couloir et cours de toutes mes forces, crache sur leurs uniformes de bons patriotes. J'entends les cris des suppliciés, derrière leur barreau je voudrais pouvoir les scier. J'accélère car je voudrais pouvoir les semer, mais leur blouse médicale vient pour me lester. J'ai encore leur perfusion dans le bras, pleine d'un produit qui nous embrouille le crâne. Je décale sur le côté, évite un garde, mais mon cathéter se prend dans l'un de ses grains. Je sais que c'est ma dernière cavale. Contre mon peuple ils ont mené leur cavale. Les forces de Pékin nous écrasent comme des cafards. Il n'y a que Dieu qu'Allah, ma dernière calame. Sarah fut torturée, son corps électrocuté et son peuple déporté par centaines de milliers. Enfant du destin, enfant de la guerre, Ouïghour, Kazakh, Tatar, Kirghiz. Enfant du destin, enfant de la guerre.
D'écouter Médine, Enfant du Destin, avec le morceau Sarah. Merci Maxime de nous avoir fait découvrir cette chanson et cette artiste. Moi j'ai pris une énorme claque en l'écoutant quelques jours lorsque vous m'en avez parlé.
Alors, si je peux me permettre, je rebondis justement Enfant du Destin parce qu'en fait dans chacun de ses albums, tous les 3-4 ans environ, il y a une chanson qui s'appelle Enfant du Destin et qui raconte le destin d'un enfant dans une zone du globe où il y a une guerre, et donc il aborde comme ça des parcours, enfin il met en avant et il dénonce toutes ces guerres, et donc dans son dernier album c'était la population des Ouïghours, et donc je trouve ça vachement intéressant pour un artiste d'avoir ce fil rouge et vachement original d'avoir cette patte là voilà.
Effectivement, c'est très bon choix, merci beaucoup. Alors, l'intelligence artificielle, bon, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées, beaucoup de craintes, beaucoup de films de science-fiction, beaucoup de d'idées plus ou moins bonnes, moins bonnes. Et il y a un terme qui ressort souvent, boîte noire. On se dit, l'intelligence artificielle, c'est... Et souvent, quand on parle de domaines que beaucoup de gens ne connaissent pas, on dit boîte noire. Pourquoi ? Parce que ça permet de passer au sujet suivant. Voilà, c'est une grosse boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc passons au sujet suivant. Mais est-ce qu'on pourrait... Est-ce que c'est le cas ? Et si c'est le cas, est-ce que vous auriez la possibilité d'ouvrir un petit peu cette boîte, peut-être de Pandore ? J'espère pas, parce que ça serait quand même assez embêtant. Mais bon, est-ce que cette boîte noire est une vraie boîte noire ? Est-ce que des gens comprennent véritablement ce qu'il y a complètement dedans ? Mais de A à Z. Parce qu'il existe un autre domaine que je connais pas mal, c'est la finance. Et que s'il y a eu certaines crises par moment, c'est que des gens très intelligents, des ingénieurs très intelligents de très grandes écoles, X, Mines, Pont, pour parler des écoles françaises, on pourrait même mettre le MIT, prenaient un actif financier et faisaient un produit dérivé, et puis ensuite sur cet actif, et ensuite faisaient un produit dérivé sur le produit dérivé, puis un dérivé sur le dérivé du dérivé. Et il y a un moment donné, on arrivait à un produit, et on ne savait même plus quel était le sous-jacent, donc on n'arrivait même plus à imaginer le risque potentiel qui pouvait être associé au produit qui venait d'être créé. Et puis des fois, ça explose. Hein. Mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas où regarder. Et est-ce que ce contexte est transposable à l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment donné où on ne saura plus du tout ou regarder pour éviter les risques, même s'il y aura des dérives, ça c'est quasiment certain.
C'est une excellente question, pardon. Oui, on est un peu dans ce cas-là, dans beaucoup de systèmes qui existent actuellement. Beaucoup de travaux de recherche, justement, qui s'intéressent à l'explicabilité, justement, des modèles. Enfin, il y a beaucoup de chercheurs, donc j'ai des noms en tête, mais qui travaillent là-dessus, puisque bah, notamment les modèles qui font des prédictions. Donc les modèles, c'est les algorithmes hein, de machine learning qui font des prédictions dans l'assurance ou dans la banque. Bah, finalement, la loi oblige d'expliquer à la personne qui se voit refuser un prêt pourquoi, quelles ont été les raisons. Et dans ce cas-là, en fait, les banques et les assurances doivent ouvrir la boîte noire, essayer de comprendre comment ça marche. Et c'est là où on est obligé de construire des choses qu'on comprend. Et donc, dans certains cas, comme ça s'applique. Et puis, dans d'autres cas où on ne comprend pas parce qu'en fait, les systèmes qu'on met en place sont tellement gigantesques avec énormément des milliards de paramètres où c'est pas à la portée de nous, pauvres êtres humains, de maîtriser cette volumétrie-là de paramètres et de comprendre quelles ont été les interactions. Donc il y a cette interrogation-là aujourd'hui, notamment l'Union européenne pousse beaucoup sur quel système on met en place. Est-ce qu'on va accepter des systèmes extrêmement puissants mais dont on ne connaît pas vraiment bien le fonctionnement? Ou est-ce qu'on on limite la technologie? C'est une bonne question. Un exemple que je prends souvent, c'est peut-être caricatural, mais c'est la voiture. C'est-à-dire que pour moi, la voiture, c'est une boîte noire. Moi, j'appuie sur une pédale et ça avance. Ce qui se passe à l'intérieur, je ne sais pas. Apparemment, il y a des injecteurs. De temps en temps, il faut vérifier s'il y a de l'huile. L'essence, je crois avoir compris. Mais en fait, à l'intérieur, les turbo-injecteurs, les DCI, je ne sais pas. Heureusement, il y a des experts dans les garages qui maîtrisent ça. Mais pour moi, en tant qu'utilisateur, c'est une boîte noire. Donc, c'est de la même manière, les systèmes, les algorithmes, les modèles de machine learning, ça reste des outils avant tout. Et dans quelle mesure on va et dans quelle mesure les experts doivent comprendre comment ça marche, c'est une bonne question. Et il y a effectivement, après, ça peut être la porte ouverte aux dérives. Je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé.
C'est pas grave. Vous parliez de limite de la technologie, mais c'est pas du tout dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que, a priori, l'intelligence artificielle a évolué par bonds successifs en fonction des financements. Un financier n'est pas un philanthrope. Donc, un financier a besoin de rentabilité, a besoin de temps en temps de fantasmer un peu. Rappelez-vous, pour ceux qui sont un peu plus âgés que les 20 et quelques années, les années 90, à la fin des années 90, le développement du marché de l'Internet, il suffisait que vous dites dans une réunion, nous allons faire un site Internet. Et alors là, vous aviez le cours de l'action qui explosait à la hausse. Donc, les financements vont arriver. Pourquoi votre parallèle est intéressante sur la voiture. Effectivement, on ne sait pas comment fonctionne une voiture. Alors, un moteur, on voit à peu près comment ça fonctionne. Mais un ABS, comment ça fonctionne. Et pourtant, si ce n'était pas là, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus d'accidents. La différence, c'est par exemple que certains... Tout ce qu'on a dans une voiture, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a un certain nombre d'années, j'avais rencontré un ingénieur aéronautique qui m'avait expliqué que la plupart des choses, des systèmes que nous avions embarqués aujourd'hui en voiture, venaient de l'industrie aéronautique. L'ABS, je ne sais plus ce qu'il y avait, anti-patinage, enfin un certain nombre de domaines et qui permettaient de se rassurer. Le souci dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est informatique, c'est que la somme de fantasmes est colossale. Sur une voiture, il n'y a pas de fantasmes. Sur un avion non plus. Bon, on peut faire une fusée, mais l'intelligence artificielle, c'est tellement nébuleux, personne ne connaît pas grand-chose, il n'y a pas... On ne l'utilise pas. Ou alors on l'utilise, mais sans le savoir, que c'est peut-être ce côté méconnaissance qui fait que la boîte à fantasmes est beaucoup plus productive que pour d'autres systèmes. Parce que quand on utilise son téléphone, je pense que l'intelligence artificielle, ou même des systèmes électroniques informatiques puissants, il y en a énormément. Quand on va sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, il y a des algorithmes qui sont certainement une petite partie d'intelligence artificielle. Mais on l'utilise parce qu'on a l'habitude. Dans certains domaines qu'on ne connaît pas, et c'est peut-être aussi le fait que y a pas de communication.
Oui.
Ou de personnes qui rassurent.
Tout à fait. Il y a c'est de l'éducation et de la pédagogie. Expliquer comment ça marche pour rassurer. De la même manière que Internet, à l'époque, c'était vu comme quelque chose de démoniaque pour les brigands. Entre-temps, ça a été pris. Le bouquet mystère est parti sur la blockchain, où la blockchain apparemment n'a financé que.
Ah, il paraît que le début de la blockchain, c'était la grande lessiveuse.
Et ben en fait, je pense que de manière générale, et l'actualité nous le rappelle trop souvent, c'est que quand on, enfin, la réaction primaire de l'être humain, c'est quand il ne connaît pas, il a peur. Et donc, il se méfie. Et en fait, au lieu d'avoir peur, bah, pas, faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir, faut comprendre, faut voir en quoi la différence de l'autre être humain ou autre système peut nous enrichir. Et en fait, quand on se penche là-dessus, on se rend compte que derrière, grossièrement, c'est des statistiques et des algorithmes mathématiques. Dont la théorie en fait date des années 60-80, donc rien de nouveau. Et donc ça marche comme ça. Et aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a des puissances de calcul qui permettent, bah, de la même manière qu'on passe de l'avion à la fusée. Hein. Finalement, une fusée, c'est juste avec des gros moteurs et beaucoup de carburant. Bah, là, en fait, je me dis que ce qu'on a aujourd'hui, donc les systèmes de deep learning, d'apprentissage profond, bah, c'est un peu des algorithmes mathématiques avec des gros réacteurs et, qu'on envoie dans l'espace, quoi. C'est un peu la même chose. Mais par contre, la réflexion est juste, puisque lorsqu'on va construire un système d'intelligence artificielle, de machine learning, et que ce système va prendre des décisions qui vont nous impacter, l'interrogation, c'est qui est responsable. Et c'est là le grand débat. Est-ce que c'est la personne qui a développé? Est-ce que c'est la personne qui a vendu? Est-ce que c'est l'assurance? Et donc, notamment avec la voiture autonome, oui. Où ça avance beaucoup... qui est responsable? Et du coup, est-ce que c'est un paradoxe assez intéressant, c'est j'achète une voiture autonome, je roule, situation extraordinaire, des gens traversent, est-ce que la voiture autonome va prendre la décision de rentrer dans l'arbre pour me tuer parce qu'elle préfère me tuer, elle a estimé que me tuer c'était plus intéressant pour la société que renverser la famille qui traversait?
Alors à ce moment-là, moi, je vais apprendre à coder, puis je vais essayer de recoder le système informatique. Alors, même s'il y a des milliards de lignes, ça peut être un peu compliqué, mais non, là, j'essaierai de non, modifier un petit peu. Mais je comprends.
Mais ça pose beaucoup de questions de qui est responsable, et de la même manière sur les métros automatiques, c'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, les métros sont automatiques, ils fonctionnent bien, ils ont été testés et prouvés dans le retranchement pour faire en sorte que bah, quand le métro arrive, il n'y ait pas de risque qu'une personne tombe ou qu'il y ait un souci. Donc, on est un peu dans la phase d'excitation. Il y a beaucoup de recherches dans tous les sens, un peu des scientifiques fous dans leur labo qui font plein d'expérimentations. Mais par contre, avant d'avoir des systèmes hautement autonomes, il va falloir mettre en place un peu de réglementation pour éviter les dérives et avoir testé et défini énormément de choses pour éviter que ça parte n'importe comment.
Et c'est vrai que l'information, la transmission, le savoir, non, ça ressemble un petit peu au titre de l'émission, sont intéressants parce que quand on entend souvent parler de l'intelligence artificielle, alors je vais prendre deux exemples qui vont certainement parler à certains d'entre vous, Deep Blue et AlphaGo. Quand on en parle, on dit l'intelligence artificielle, soit c'est pour se dire que ça va être cataclysmique, soit c'est pour dire que un ordinateur a battu le champion du monde d'échecs, Kasparov, je ne me souviens même plus de son prénom.
Gary
Kasparov, merci beaucoup. Il y a une vingtaine d'années.
80,
et puis,
97.
Il y a 24 ans même. Et il y a 2-3 ans, je crois, l'un des meilleurs joueurs de Go. Alors, c'était peut-être pas le champion du monde de l'époque. Il devait être dans les 3-4 meilleurs. Et il était champion. Enfin, c'est un mythe. Était battu par AlphaGo, un jeu qui, paraît-il aussi, il faut une intelligence très, très développée pour pouvoir être très, très, très bon au jeu de Go. J'ai essayé plusieurs fois, c'est pas le plus simple.
Voilà, je suis en train d'apprendre également, c'est compliqué.
Tout à fait, je préfère le backgammon, ça reste encore un petit peu plus simple. Mais, enfin, plus simple, non, c'est différent. Mais c'est vrai que quand on en parle, c'est souvent pour dire que ça a battu l'homme. Et je pense que dans l'inconscient collectif, on se dit que c'est bien, mais ça risque d'être trop pour nous et de nous déposséder de beaucoup de choses.
Terminator.
Voilà, Terminator, Terminator 2 et autres.
Effectivement, beaucoup de fantasmes. Alors, ce qui est intéressant sur ces deux exemples, c'est que la méthode n'a pas du tout été la même. C'est-à-dire que Deep Blue, donc IBM, il me semble.
Oui, de mémoire, oui.
Oui, et en fait, la manière dont ils ont résolu, ils ont réussi à le battre, était assez simple. C'était, on a donc un échiquier, c'est 8 x 8,
oui.
le plateau. Et en fait, on étudie toutes les possibilités. Donc, on a suffisamment de mémoire pour étudier toutes les possibilités. Donc, étudier que s'il va en E8, alors je vais là-dedans, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour dérouler en fait des millions de parties en parallèle et ensuite choisir les parties qui vont maximiser nos chances de réussite.
Donc c'était un peu plus rapide que le joueur d'échecs qui, en général, joue 3 ou 4 coups en avance. Peut-être un peu plus. Mais donc là, eux, ils étaient à 10, 15, 20. Enfin, ils prenaient toutes les probas possibles.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils prenaient un champ exhaustif. Enfin, c'était, je ne sais pas si c'était toutes les combinaisons, mais c'était quasiment toutes les combinaisons.
Alors c'est là où certains disent, mais c'est pas l'intelligence artificielle, c'est simplement de la puissance de calcul et de la rapidité d'exécution.
Bah c'est là où effectivement, nous, dans notre mémoire, on est limité.
Oui.
Et là où l'ordinateur, à ce moment-là, on a réussi à lever cette limitation. Et effectivement, du coup, c'est de la puissance de calcul, mais l'intelligence telle qu'on voit aussi pour nous, est-ce que c'est pas aussi de la puissance de calcul? La capacité de comprendre quelque chose, la capacité de faire un calcul mental rapidement, de faire des liens, d'apprendre une nouvelle langue, enfin...
On en revient au tout début, c'était le jour, tant qu'on n'aura pas une définition précise, mais même sans en avoir... Mais que chacun doit avoir sa définition de l'intelligence pour se dire, bah, quelle est l'intelligence artificielle, je suis prêt à voir.
C'est ça. Il y a des intelligences, en tout cas.
Oui.
Et en fait, aujourd'hui, effectivement, sur l'intelligence du jeu d'échecs, pour gagner une partie, en termes uniquement binaires, je gagne, je perds, aujourd'hui, bah, on est dépassé, clairement. Ensuite, bah, y a aussi peut-être un aspect plus loisir ou plus artistique en fait, du jeu. De la même manière que si on regardait des robots jouer au football, ça ne serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir des êtres humains être dans l'effort, dans la performance, surpasser, et puis de temps en temps aussi déraper. C'est ça qui fait aussi la beauté du sport. Et ensuite, AlphaGo, donc, c'est à 2016. À peu près, je crois. Alors je vous invite, il y a un documentaire qui a été réalisé, je sais pas par qui a été réalisé, mais en tout cas il est disponible gratuitement sur YouTube. Ça dure 1h30 et je l'ai regardé l'année dernière pendant le confinement, et ça a été une claque parce qu'en fait je l'ai vécu comme un film. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir devant moi un film à suspense avec du rebondissement où c'est vraiment bien raconté. Au début, il y a l'homme qui a son ego et qui dit « Non, mais attendez, c'est une machine. Le jeu de Go, c'est pas le jeu des échecs, ça n'a rien à voir. Impossible. Peut-être que je laisserai gagner la machine une partie, mais ça va vite être terminé. » Et puis, on connaît le résultat. Et en fait, le résultat, bah, l'homme, dans son humilité, « Bon, bah, voilà, effectivement, j'avais sous-estimé ce système-là. Incroyable, c'était très intéressant comme expérience et ça va nous permettre d'apprendre, etc. » Et effectivement, enfin, ça a eu un choc dans l'ego de l'espèce humaine. Et donc, c'était assez intéressant. Et en fait, là, l'approche n'était pas du tout exhaustive, comme dans le cas de Deep Blue. Là, du coup, il y avait beaucoup plus de probabilités et de statistiques, puisque dans le jeu de Go, il y a plus de combinaisons qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Donc, on peut difficilement le faire rentrer en mémoire.
Oui.
Et c'est là où, du coup, il y a une approche assez novatrice des équipes de chercheurs. Pour mettre en place ça. Et il faut bien se rendre compte que ces équipes-là, il y avait des dizaines de personnes à plein temps qui travaillaient dessus. Ce qui est intéressant, c'est que pour améliorer leur système, elles ont fait intervenir des champions, notamment un champion européen qui vit en France. Et on le voit très bien dans le documentaire. Il vient jouer contre la machine et en fait, lui-même, il va faire des dizaines de parties pour identifier les défauts, le faire remonter aux chercheurs, et donc en fait les chercheurs ensuite vont ajuster leur système pour ne pas tomber dans des pièges faciles, etc. Et donc en fait c'est l'apprentissage, finalement c'était un échange entre l'homme et le système, et puis donc à la fin ça a explosé et ils ont fait AlphaGo, et puis ensuite ils ont fait des tâches beaucoup plus compliquées en jouant aux jeux vidéo qui nécessitent encore plus entre guillemets d'intelligence.
Merci pour toutes ces explications. Alors, avant de conclure sur un exemple, on va faire une deuxième. Enfin, nous allons faire un deuxième intermède musical. Alors cette fois-ci, moi, j'ai choisi après l'Asie, l'Afrique. Donc, Daniel Balavoine. Je vous propose d'écouter Un enfant assis attend la pluie.
Cendre d'envie,
Si vous avez l'occasion, écoutez l'ensemble de l'album, vous verrez. C'est juste assez extraordinaire. Enfin voilà, DM Balawan est quelqu'un qui, malheureusement, est parti un tout petit peu trop tôt. Revenons maintenant à l'intelligence artificielle et on va surfer sur l'actualité. Alors, nous ne sommes pas sur une radio d'information, mais plutôt de savoir. Intelligence artificielle et Covid. Est-ce qu'il pourrait y avoir une petite histoire commune ?
Il y a énormément de choses à faire. Il y a la RATP déjà qui avait testé un système pour mesurer le pourcentage de personnes qui portaient les masques, donc pour voir justement si ça avait été fait. Donc ça avait été mis en place. Et en fait, et j'avais vu donc l'année dernière un papier qui était sorti de chercheurs du MIT, papier très intéressant de dépistage du Covid. Et l'idée, c'était au lieu de vous enfoncer un très grand cure-dent dans le nez jusqu'au cerveau, bah simplement de vous appeler au téléphone et de vous demander comment ça va. Et c'était uniquement avec le son de la voix. Le son de la voix. Donc ils ont publié un papier. Alors je l'ai pas lu en détail, mais ils avaient quand même identifié avec un gros pourcentage de succès des personnes qui avaient été malades et qui l'étaient réellement, et d'autres personnes qui n'étaient pas malades, qui avaient été détectées comme telles. J'ai regardé cette semaine s'ils avaient continué un peu leurs recherches. Ils n'ont pas forcément continué. Ils ont republié un papier en avril sur la maladie d'Alzheimer. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je me rappelle, il y a quelques années, on m'avait contacté pour une mission similaire, mais pour détecter la grippe. Et d'accord. Justement, c'était on vous appelle et en fait, en parlant, finalement, la voix comporte déjà des signes avant-coureurs du fait que vous êtes porteur de la maladie et que vous allez la développer. Donc, ça permet justement de se mettre à l'écart et de protéger les autres pour finalement peut-être commencer à faire du télétravail pour pas contaminer les collègues, etc. Ouais, donc, un usage très intéressant. Dans ce cas-là, de dépistage en tout cas, puisque forcément on imagine toutes sortes de dérives assez facilement. On ne va pas se mettre à écouter toutes les conversations du monde entier pour savoir où est le Covid, ça serait un abus. Mais c'est un autre sujet.
C'était intéressant, puis c'était un peu pour surfer sur l'actualité. Et puis ceux qui écouteront l'émission dans 20 ans se diront « Mais Covid, qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Vous ferez Google, vous taperez Covid et vous verrez Covid-19 et vous verrez tout ce que l'on a pu vivre comme chose assez étonnante. Alors pour finir, je vous propose de parler d'un sujet un petit peu plus spécifique qui est la reconnaissance des images. On en a déjà parlé un petit peu en début d'émission avec Facebook et Google, si ma mémoire est bonne. Et la reconnaissance faciale, ce qui est... la première chanson n'était pas tout à fait anodine. On était en Chine, donc la Chine est un grand pays, très beau pays, qui de temps en temps peut-être connaître des dérives pour nous occidentaux, mais est-ce que pour eux ça constitue des dérives? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la reconnaissance faciale en général et peut-être plus particulièrement dans ce pays?
Tout à fait. Alors, à mon avis, le domaine de la vision par ordinateur et de la reconnaissance, c'est un des domaines qui a le plus connu de progrès ces dernières années. Énormément d'investissements et énormément d'applications concrètes. Et je pense que ça s'explique assez facilement par le fait que nous, êtres humains, on interagit avec notre environnement, avec la vision. Donc le but, c'est de transmettre cette capacité aux machines pour qu'elles puissent interagir comme nous. Dans ce domaine-là, il y a la partie reconnaissance faciale, très utile sur Instagram ou Snapchat pour se mettre des masques colorés. En tout cas, c'est sûrement d'utilité publique à ce contexte-là. Et puis effectivement, en Chine, ils ont généralisé en fait l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les rues. Alors là, je prends des pincettes puisque effectivement, comme vous le disiez, pour nous, Français occidentaux, ça peut paraître très, très dangereux et très révoltant, mais il faut garder à l'esprit que c'est une autre culture. Tout le monde ne pense pas comme le français moyen, donc vraiment, il faut garder ça en tête. Et je ne vais émettre aucun jugement vraiment dans mes propos. C'est vraiment, je vais décrire de ce que je sais, de ce qu'a mis en place la Chine. Mais depuis plusieurs années, ils ont installé des caméras de vidéosurveillance partout pour justement mettre en place un système de crédit social. Et le but, c'est de s'assurer que les lois sont respectées. Et en soi, je dirais, c'est normal que la loi est respectée pour le vivre ensemble.
Alors, j'imagine qu'en France, un pays cocardier qui est toujours contre tout, ça peut être un peu compliqué. Mais pourquoi pas en Chine?
Tout à fait. Et en fait, un exemple beaucoup plus européen, c'est qu'en France, traverser quand le petit bonhomme est rouge, c'est tout à fait banal et ça ne choque personne.
Ça choque nos amis suisses.
Et ça choque nos amis allemands, nos amis suisses. Voilà,
eux qui sont très carrés. La première fois que j'ai commencé à traverser à Genève, alors que le feu était rouge, mais le petit bonhomme était toujours rouge, je me suis fait fusiller du regard par un gens qui étaient en face. À mon ami, ils étaient suisses. Mais c'est vrai que c'est un peu l'autre côté. On veut la liberté.
C'est ça. Et puis, ma sœur s'est fait arrêter par la police. Elle a fait avoir une contravention en Allemagne parce qu'elle a traversé quand c'était rouge. Donc, c'est pour ça que voilà, on est les gens qui ont la chance de voyager se rendent compte plus facilement de ça. Et donc, je voulais simplement mettre ça en avant. Et donc ce crédit social, bah, c'est simplement dès que les caméras identifient une infraction, donc traverser quand le passage piéton est au rouge, faire un feu d'ordure, enfin faire un feu dans votre jardin alors que c'est illégal, vous perdez en fait des points. Et ensuite, bah, quand vous n'avez plus assez de points, on vous bloque l'accès à certains droits. Donc le droit de prendre l'avion, le droit d'avoir un emprunt bancaire, le droit de prendre le métro, etc. Et donc l'idée, c'est justement de dire, bah, finalement, les droits, ça se mérite par rapport à la loi. C'est une philosophie un peu différente.
D'accord, donc là, c'est en négatif à chaque fois que vous faites une erreur. Mais comment est-ce que vous pouvez regagner des points?
Alors, il y a du positif.
Est-ce que c'est du temps?
Alors, un ami m'a raconté, donc il est allé en Chine et il a été bluffé par l'organisation et l'explosion technologique. Et il me racontait, il était avec une collègue donc chinoise, il traverse, et je ne sais plus pourquoi, mais elle perd des points, et mon ami aide une dame, une vieille dame, à traverser la route. Et un peu plus tard dans la journée, je ne sais plus s'il passe dans une gare ou autre, mais du coup, il voit un petit peu leur visage et leur nom, et son ami lui dit, la collègue lui dit, tiens, tu vois, là, tout à l'heure, tu as gagné des points, regarde, tu as ceci, tu as cela. Donc je sais plus comment c'était matérialisé, mais du coup mon ami avait gagné des points en faisant une bonne action. Donc toute la question, c'est ils ont quand même réussi à identifier une bonne action, et c'était assez incroyable.
C'est assez bluffant, mais ça pourrait peut-être être pas mal aussi pour nous, parce que de pouvoir être un peu pas contraint, mais le gros souci en France. Je reviens sur ce que je disais, c'est que dès qu'il y a des caméras de surveillance, on a l'impression d'être surveillé, qu'on ne pourra plus rien faire parce qu'on va être regardé. Non, la chose... Alors là, on est dans un système qui est encore plus puissant, parce qu'il doit y avoir une puissance de calcul qui est colossale. J'imagine juste à Pékin. À Pékin, je ne sais pas combien il y a d'habitants, je ne sais pas combien il y a de caméras, je ne sais pas où sont les serveurs, j'espère qu'ils sont sous l'eau, hein, pour éviter de trop chauffer.
Ils sont au Tibet.
Comment ?
Ils sont au Tibet, là où il fait froid.
Ah oui, ils sont au Tibet, oui, bah, à 6000 mètres d'altitude, c'est bon. Après, ça fait des câbles un petit peu longs. Mais oui, en posant la question, je rebondis sur autre chose, mais c'est juste, la puissance de calcul doit être colossale.
Oui, tout à fait.
C'est pas qu'un ordinateur, c'est juste une intelligence pour ah bah là, 10 millions, 50... Enfin, je sais même pas combien il y a d'habitants dans la banlieue.
Je sais pas non plus, mais effectivement, il y a un nombre de caméras incroyable, et puis il faut uniformiser les réseaux et les faire communiquer entre eux. Ils ont beaucoup investi là-dedans, et aujourd'hui, ça marche dans une certaine mesure. Et c'est ça qui est bluffant, c'est qu'ils ont réussi en moins de 10 ans à changer la manière dont les citoyens pouvaient se déplacer et interagir avec l'État là-bas. Et c'est bluffant de voir qu'en 10 ans, ils ont réussi à faire ça. C'est aussi la force de la Chine, de pouvoir avancer très vite. Quand une décision politique est prise, ils avancent tous ensemble. Tous ensemble, en tout cas.
Ouais, donc on leur demande en d'avancer tout cas, ils tous ensemble. Et après, c'est vrai que c'est un peu l'avantage de ces régimes, bien organisés. C'est qu'une décision qui vient d'en haut. Non, c'est pas pour employer dictatorial, parce que c'est pas une dictature, mais ça n'est pas loin. Enfin, de notre point de vue.
C'est ça, c'est de notre point de vue. Et toutes les difficultés qu'on a, nous, occidentaux, c'est de savoir comment c'est perçu. Est-ce que la majorité accepte parce que finalement, de par leur culture, ils pensent beaucoup plus à la communauté, à la famille, que nous, occidentaux, beaucoup plus individualistes. Donc c'est là où c'est compliqué, et je suis jamais allé, donc je vais pas forcément plus détailler sur ce sujet-là, mais. Voilà, c'est toujours à prendre des pincettes, et même si peut y avoir des dérives, et notamment, je reviens à la chanson de Medine, où les camps de rééducation, ça nous rappelle des tristes périodes de notre histoire en Europe.
Assez, assez nombreuses, et dans tout pays, même dans le petit pays qu'on a cité juste avant, la Suisse qui n'est pas... Enfin, les exemples sont très très nombreux. C'était la tectonique du savoir en compagnie de Maxime Pavlak. Désolé de m'être trompé en début d'émission. Et ce fut un réel plaisir d'échanger sur ce sujet ô combien intéressant. À la réalisation, Tiffaine, bravo et merci pour cette première émission en votre compagnie. Si vous avez pris l'émission en cours, ou si vous souhaitez écouter à nouveau cette dernière, elle sera rediffusée ce soir à 23h et demain matin à 9h. Quoi qu'il en soit, pourrez retrouver cette dernière dans la bibliothèque de podcast sur le site de la radio Esprit Occitanie. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page de l'émission. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel intermède tectonique.